Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous. Tempo Classique, c'est une émission qui a pour objet de parler de la musique savante de qualité. Et pour ce faire, je reçois depuis 3 ans nombre de professionnels en tout domaine, des instrumentistes solistes, des instrumentistes d'orchestre, des enseignants, des institutionnels, des dirigeants d'associations, des patrons de festivals, des chefs de chœur et même des organistes. Bref, tous ceux qui organisent et font vivre, chacun à son poste, l'écosystème musical de la région. Mais cet écosystème ne peut fonctionner sans un public pour assister aux concerts, sans non plus des élèves qui fréquentent les écoles de musique de toutes sortes, bref, sans ces amateurs de musique, toujours nombreux à remplir les salles, petites ou grandes, prestigieuses ou pas, à pratiquer eux-mêmes la musique ou à proposer cette activité à leurs enfants, découvrir le temps d'un concert un univers nouveau, et même écouter certaines émissions dédiées à la cause, sur RCN par exemple, ou ailleurs. Alors ce soir, je vous propose de rencontrer quelqu'un qui coche pas mal de cases de cette description très succincte que je vous ai faite de l'univers du mélomane. Bonsoir Anne Bichet.
Bonsoir Dominique.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette carte blanche dont je rappelle le principe. C'est vous qui avez choisi toutes les illustrations musicales de l'émission. Et on commence par ceci. Vous avez tous reconnu le début du Gloria d'Antonio Vivaldi dans la version des Arts florissants dirigée par Paul Agnew. Alors Anne Bichet, pourquoi ce choix de Vivaldi ?
Alors plus que le choix de Vivaldi, c'est le choix du Gloria de Vivaldi. C'est une musique qui représente pour moi ce que je ressens à cette saison quand je regarde dehors, que je vois la nature qui explose. Le départ de rien, du bois mort et l'apparition de couleurs, de tonnes de végétaux, des choses qui me réjouissent profondément et c'est cette musique que j'ai envie d'entendre le matin en me levant.
C'est aussi pour les catholiques la musique de la résurrection.
C'est aussi une musique effectivement à connotation catholique.
Ouais, tout à fait. Alors Anne, comment vous avez découvert la musique ?
Alors, j'ai été élevée dans une famille où on a toujours beaucoup écouté de musique. C'était de la musique sur la petite chaîne familiale, mais régulièrement. Il y avait un piano de ma grand-mère sur lequel je pianotais régulièrement. Et mes parents m'ont fait donner des cours de piano. Mmh. J'avais à peu près 6 ans, je pense. Ils n'ont pas choisi une école de musique, ils ne voulaient pas rajouter du scolaire au scolaire. Ils étaient relativement exigeants dans le domaine purement scolaire et ils ne voulaient pas que ça devienne une deuxième contrainte. J'ai eu un vieux professeur très pédagogue que des anciens lycéens connaissent peut-être, il s'agissait de Paul Etel,
Ah oui, c'est un nom qui est connu, oui, tout à
qui
fait.
a su me donner le goût de la musique. Je ne suis jamais devenue une grande pianiste, mais j'y ai toujours pris beaucoup de plaisir.
Vous êtes une grande mélomane, en tout cas.
J'ai, dans mes favoris, dans mes passe-temps favoris, effectivement, je vais volontiers écouter de la musique.
Alors, vos premières émotions musicales, ça remonte à quand?
Alors, la toute première vraie émotion, elle est assez ancienne, je pense. J'avais, je crois, le jour de mes 8 ans. Mes parents m'ont emmenée pendant les vacances écouter un concert. C'était dans un petit village breton au milieu du mois d'août, dans une église, et un groupe allemand se produisait et jouait les concertos brandebourgeois de Bach.
Ah oui.
Et j'ai été stupéfaite de constater qu'un groupe d'adultes arrivaient à se coordonner d'une façon aussi remarquable pour produire une musique. C'est plus que la musique, ce qui m'a stupéfait, c'est cet agencement de différents instruments qui produisaient quelque chose.
Et oui, c'est vrai que c'est important de travailler ensemble la musique et pour ça, il faut vraiment beaucoup travailler. Alors, globalement, ça vous apporte quoi la musique ?
La musique, c'est pour moi une forme de méditation, une façon de mettre de façon tacite des mots sur ce que je ressens. Ça me procure un profond bien-être.
Et est-ce que vous pensez que dans l'éducation et dans la société, la musique a suffisamment sa place?
Alors pour la musique, comme pour d'autres arts, je pense qu'effectivement, l'éducation laisse assez peu de place à l'apprentissage du beau. Et pourtant, c'est ce beau qui permet...
qui éviterait des catastrophes.
Voilà, à des enfants d'aller au-delà de la dure réalité.
Alors, vos enfants ont fait de la musique. Qu'est-ce qu'ils pensent du fait que vous les ayez faire de la musique ?
Je pense que leur réaction n'est pas la même. L'aîné a fait volontiers et assez spontanément de la musique.
Ouais.
Il a persévéré d'ailleurs et il en écoute encore très régulièrement. Il en tire un plaisir et il a incité ses propres enfants à commencer la musique.
Mmh.
Le second a fait, pour répondre à la demande de ses parents, différentes tentatives successivement du piano, du saxophone, de l'orgue. Et manifestement, c'était plus une contrainte pour lui qu'autre chose. On a laissé tomber. Et j'ai eu l'agréable surprise de voir 10 ans après, quand il est devenu un jeune adulte, qu'il allait spontanément rechercher l'écoute de la musique.
Donc oui, les graines qu'on sème en tant que parents, on ne sait jamais ce qu'elles donneront, mais on peut avoir parfois très agréables. Alors on parlait de Bach tout à l'heure avec votre première émotion musicale. On va écouter autre chose de Bach, pas les brandebourgeois, mais le début de l'offrande musicale.
Thank you.
C'était le début de l'offrande musicale, donc le thème royal et puis le début du Ritschercar à trois par le Concert des Nations dirigé par Jordi Savall et on entendait évidemment Pierre Entaille au clavecin. Alors Anne Bichet, votre carte blanche, vous êtes anesthésiste, on dit réanimateur, réanimatrice ?
À l'époque où j'ai passé le diplôme, on disait réanimateur.
D'accord. Et vous travaillez à la clinique Majorelle ?
C'est cela.
Et qu'est-ce qui vous a fait choisir cette voie de l'anesthésie-réanimation ?
Alors, un peu le hasard. Au cours de mes études de médecine, j'ai fait plusieurs choses que je trouvais intéressantes. Et c'est au cours d'un stage de chirurgie où je m'ennuyais vraiment en tenant les écarteurs pour le chirurgien, qu'un anesthésiste derrière le champ m'a fait signe et m'a initié, m'a montré une première approche de cette spécialité que je n'ai pas abandonnée par la suite.
D'accord. Donc, vous vous occupez des femmes qui vont venir accoucher, c'est ça ?
Entre autres. C'est une partie de mon activité.
Oui. Et l'autre partie ?
L'autre partie, c'est de la chirurgie au bloc opératoire.
D'accord, ok. Alors, quel contact vous avez avec les patientes dont vous vous occupez ? Il faut les rassurer, expliquer
Alors, je les vois à plusieurs reprises. Je les vois à distance de l'accouchement, en général un mois avant. Là, c'est une explication très technique de ce qui va se passer, de ce que je vais leur proposer. À ce moment-là, elles se préoccupent surtout de ce qu'on va leur faire. Je les revois quand elles arrivent en début de travail. Et là, le côté technique est complètement dépassé. Elles sont souvent angoissées. Elles ont besoin de parler. Mmh. Et parfois, on parle musique.
Ah oui.
Ça, c'est pas le cas de toutes. Mais un certain nombre de femmes ont préparé des playlists qu'elles souhaitent faire entendre à leur bébé pendant cette période un petit peu spéciale.
Et il y a quoi sur les playlists ?
C'est extrêmement variable.
Tout, ouais.
C'est généralement des musiques douces, apaisantes, mais pas forcément, pas uniquement.
Vous faites appel donc un peu à la musique, mais vous en écoutez aussi au bloc opératoire, par exemple ?
Alors, au bloc opératoire, on opère très souvent en musique.
Ouais.
Alors, bien sûr, il faut que ce soit une demande du chirurgien. C'est quand même lui qui est le chef d'orchestre d'une salle d'opération. J'ai des souvenirs de chirurgiens, des souvenirs un peu anciens de chirurgiens qui nous imposaient du chant grégorien, par exemple, pendant toute une matinée. C'était un peu difficile. J'ai travaillé plus récemment avec une jeune femme chirurgien qui est arrivée à la clinique en imposant dans ses salles du hard metal. Donc au bout d'une séance, je lui ai dit que si elle voulait que je continue à lui endormir ses malades, il fallait soit elle arrêtait de faire de la musique, soit elle changeait de type de musique. La plupart du temps, c'est assez consensuel. Le chirurgien, quand il a besoin de se concentrer, ne demande pas de musique. Quand il a envie d'avoir quelque chose d'apaisant derrière lui, demande de la musique. Souvent, ils amènent leur playlist, mais ils tiennent compte de l'envie des autres membres de l'équipe, les infirmières de salle, l'anesthésiste. Et on découvre de cette façon-là beaucoup de choses.
Ah bah oui, bah c'est très bien. C'est une approche musicale un peu originale, mais qui a le mérite d'exister. Alors, peut-être un bon souvenir ?
Alors, un beau souvenir, c'est un chirurgien de la main qui opérait il y a très longtemps, avec un arrière-fond musical diffusé par une radio à bas son. Et puis, on a entendu le concerto pour la main gauche de Ravel.
Mmh.
Et il a demandé qu'on monte le son. Et puis, il a demandé ce que c'était. Je lui ai dit, puisque je connaissais le morceau.
Ouais.
Et l'infirmière a beaucoup écouté aussi. Et puis, bon, on est passé à une autre musique. Et la semaine suivante, il est revenu avec le CD qu'il a mis dans la salle. Et j'étais très contente, en fait.
Ah bah oui, c'est sûr. Alors, c'est pas le concerto de Ravel qu'on va entendre, mais c'est la sonate de Franck dans une version, alors une version pour flûte et piano. Pourquoi vous avez choisi cette version ?
Je trouve que cette cette herse prête parfaitement. Je sais qu'elle est initialement écrite pour violon, mais je trouve que la flûte ressort parfaitement bien avec le piano.
Eh bien, on va écouter le premier mouvement.
Thank you.
C'était le premier mouvement de la sonate pour violon et piano de César Franck, mais vous avez tous entendu que c'était la version pour flûte et piano. James Galway à la flûte, Martha Argerich au piano.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors Anne, je suppose que votre métier, qui est peut-être aussi une passion, non ?
Oui.
Donc ça vous a pris et ça vous prend encore pas mal de temps, mais vous avez quand même d'autres activités dans des domaines bien particuliers. Alors je sais par exemple que vous étudiez l'allemand. Comment vous est venue cette idée d'étudier l'allemand ?
Alors j'ai grandi dans une famille très germanophile. Trois de mes quatre grands-parents étaient alsaciens avant 1914, ont donc été baignés par cette langue allemande. Ma mère parlait couramment l'allemand et du coup, mes parents se sont beaucoup investis dans des associations franco-allemandes à connotation culturelle, par lesquelles j'ai été à beaucoup de spectacles, de réunions ou en famille, où les familles venaient avec leurs enfants. J'ai eu l'occasion de lié pas mal d'amitié avec des enfants de mon âge. Et du coup, j'ai plutôt bien appris l'allemand.
Et vous lisez l'allemand couramment, la littérature
Alors,
germanique ?
Je le lis, pas suffisamment couramment pour le lire dans le texte, ou en tout cas pour des textes un peu complexes. Une langue, c'est un peu comme la musique, comme une partition. On l'apprend, on la maîtrise bien. C'était mon cas en fin d'études. Et puis, le manque de pratique fait qu'on en oublie beaucoup.
Ah oui.
Et quand on reprend une conversation en allemand, on a l'impression de ne plus trouver ces mots, alors qu'on savait parfaitement qu'on les connaissait. On les réentend une fois et ils reviennent.
Oui, c'est ça. Faut les réengrammer dans le cerveau, faut que ça se remette en place.
C'est pour ça qu'à l'approche de ma retraite, j'ai décidé de reprendre des cours d'allemand.
Donc,
ce sont des cours de conversation allemande avec une Allemande qui vit à Nancy.
D'accord. Et vous connaissez l'Allemagne ?
Alors, je connais plutôt bien l'Allemagne. Pas tout, bien sûr, mais j'ai déjà beaucoup voyagé en Allemagne.
Ouais.
C'est une destination de vacances que j'aime bien.
Ouais. Vous fréquentez la société allemande quand vous êtes là-bas ? Les gens ?
Alors, j'y retrouve certains amis,
ouais.
Mais j'y vais beaucoup en touriste.
Bon, bah, on va écouter un peu de musique en allemand. Un Lied de Schubert, mais je vous laisse prononcer le titre.
Alors, le titre, c'est Erlkönig.
Oui.
Ça commence par un célèbre vers de Goethe. Wer reitet so spät ?
Ce qui veut dire ?
Qui veut dire qui galope aussi tard. C'est un magnifique poème de Goethe qui raconte l'histoire d'un père qui aime profondément son enfant et cet enfant est en train de mourir.
Le grand romantisme allemand.
C'est le grand romantisme allemand. Schubert a parfaitement su mettre en musique ce poème. C'est un des leaders de Schubert dans lequel on sent le plus d'adéquation entre la musique et le texte.
D'accord, on va écouter une version de référence.
Thank you.
Eh bien, c'était un extrait de Erlkönig, de Le Roi des Aulnes, de Franz Schubert, dans l'interprétation de référence Dietrich Fischer-Dieskau et Gérald Moore qui l'accompagnait au piano. Alors, Anne Bichet, on va passer de l'allemand à l'anglais. Alors là, on change totalement d'univers avec une chanson dont voici les premières phrases que je vais vous dire, mais en français. Quand j'étais jeune, la vie semblait si merveilleuse, un vrai miracle. Elle était belle, pleine de magie, et tous les oiseaux dans les arbres chantaient si heureux. Si joyeux, si espiègle, elle me regardait. Mais ensuite, ils m'ont envoyé au loin pour m'enseigner comment être raisonnable, logique, responsable et avoir un esprit pratique. Et ils m'ont fait voir un monde dans lequel je pourrais être si digne de confiance, clinique, intellectuel, cynique. Ça, c'est le premier couplet. Pourquoi ce choix ?
C'est avant tout un choix, une interpellation musicale dans un premier temps. C'est un album qui est sorti dans les années 79-80. C'était mes premières vacances de grande entre copains au ski. Et l'album venait de sortir et on l'a écouté en boucle pendant 8 jours. Et chaque fois que je réentends cette chanson, je me retrouve dans la peau de la jeune femme que j'étais à l'époque.
D'accord.
Après, j'ai lu les paroles de cette chanson, je les ai intégrées et je trouve qu'elles reflètent bien mon approche de la vie. Effectivement, tout semble simple, facile. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Et puis, en grandissant, on est confronté progressivement à des défis, à des échecs. Et on voit les choses différemment, pas forcément négativement. On est simplement conscient du mal qu'on doit se donner pour obtenir les choses. C'est profondément gratifiant de voir qu'on les réussit. Et je trouve que cette chanson est un bon reflet d'un apprentissage.
C'est The Logical Song Supertramp. Et oui, vous êtes toujours dans Tempo Classique, mais vous voyez, on est large d'esprit. The Logical Song, Supertramp, un choix de mon invité carte blanche, Anne Bichet.
Tempo Classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors, en anglais, c'est The Bee. En allemand, c'est dit Biene. Je veux parler de l'abeille. Pourquoi je vous dis ça, allez-vous me demander ? Eh bien, tout simplement pour faire la transition avec une autre des activités de mon invité de ce soir, c'est l'apiculture. Alors, Anne, comment vous est venue cette idée de vous intéresser à ce domaine ?
La première approche est ancienne. Au retour d'une promenade avec mon père, où on avait vu un essaim, il m'a mis dans les mains La vie des abeilles de Maurice Maeterlinck. Mmh. J'ai pris ça au départ comme un écrit naturaliste. Et en fait, c'est un livre profondément poétique, voire philosophique. Il observe de très près l'organisation des abeilles, dont tout, au cours de leur courte vie, puisqu'elles ne vivent que 40 jours, tend à la perpétuation de l'espèce, hein, au bien-être de la colonie. Et c'est passionnant.
Alors, qui dit abeille dit des tas de choses, un terrain, des ruches, des animaux, du temps.
Voilà, je me suis toujours intéressée à partir de là à ce sujet. J'ai beaucoup discuté avec des apiculteurs qu'on rencontre dans des foires aux plantes, dans des mielleries, entre guillemets. J'ai toujours eu très envie de me lancer et en même temps un peu peur. J'avais vu l'expérience d'amis qui ont pris des ruches qui se sont éteintes très vite. Et il a fallu la rencontre tout à fait par hasard avec deux apiculteurs d'une association pas très loin de chez moi pour que je décide de me lancer. J'ai acheté l'année dernière une ruche vide dans laquelle il était prévu que je trouve une colonie à installer. Ouais. Et puis, petit clin d'œil du destin, j'avais à peine la ruche que j'ai trouvé un essaim dans mon jardin. Donc, j'ai fait appel à mes deux coachs apiculteurs qui sont venus m'aider à le capturer, qui m'ont guidée pour élever cet essaim l'année dernière. Il a passé l'hiver et là, je viens de diviser cette ruche en deux ruches. J'ai deux ruches maintenant au fond de mon jardin et j'espère bien pouvoir faire du miel cette année, au moins à titre symbolique. C'est d'ailleurs une nécessité puisque mes petits-enfants ont déjà fabriqué les étiquettes pour les pots de miel.
D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'important à vos yeux dans la vie des abeilles ?
C'est fascinant. C'est fascinant, rien n'est sans raison. Ouais. Elles sont extrêmement bien organisées, elles sont prêtes à se sacrifier pour le bien commun. Et en même temps, elles sont extrêmement adaptatives aux circonstances, à ce qui les entoure. Et l'observation des abeilles est un vrai plaisir.
Oui, parce qu'il y a, alors il y a la reine, il y a les ouvrières, il y a je sais pas quoi.
La reine n'est d'ailleurs pas la personne qui gouverne la ruche. Elle est une ouvrière avec un sens différent, enfin avec une fonction différente.
Ouais. Un peu plus grosse que les autres.
Elle
déjà.
Est plus grosse que les autres. C'est surtout elle qui se charge de pondre, de répondre aux besoins en population de la ruche. Les abeilles sont entièrement dévouées alors à la reine, mais aussi à la survie de la ruche. Mmh. Et les faux bourdons sont un peu des gros paresseux qui profitent de la situation, mais qui ont quand même une fonction.
Alors, j'ai lu qu'en préparant l'émission, qu'elles utilisaient la danse pour communiquer.
Oui, c'est une science qu'on est à peine en train de découvrir. Elles ont un mode de communication. Ce sont des mouvements, mais des mouvements coordonnés qui ont chacun une signification pour indiquer où est le champ le plus proche à butiner, où est la ruche dans laquelle on doit rentrer, à quelle distance. Et tout ça correspond à une chorégraphie. Ah oui. Très précise.
Oui. C'est assez fascinant tout ça. Ça fait un peu penser aux fourmis de Bernard Werber. Quoi, ça.
C'est un équivalent volant.
L'équivalent volant. Bon, et vous, alors, la musique, elle vous sert à quoi ?
Alors, je dirais que la musique, c'est une amie indéfectible. Mmh. Elle est là quand on souhaite. Elle répond à nos sentiments du moment. C'est pas la même le matin, le soir, à différentes périodes de la vie. Elle sait s'effacer quand on n'a pas envie de l'entendre. Et on la retrouve toujours avec un plaisir identique.
Très bien. Eh bien, on va terminer avec l'alliance de la danse, de la musique et de la liberté. Astor Piazzolla. Thank you. C'était le Libertango d'Astor Piazzolla. Voilà, eh bien Anne, merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie.
C'est moi qui vous remercie.
C'est toujours agréable d'avoir le témoignage de mélomanes. Merci à Joris pour la technique. Et puis on parlait tout à l'heure du concerto pour la main gauche de Ravel qu'on entendait dans les blocs opératoires. Eh bien, écoutez, je vous propose de terminer l'émission sur le début de ce concerto. C'était le début du concerto pour la main gauche de Maurice Ravel dans l'interprétation de Boris Berezovsky. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À mardi prochain. Bonne semaine à l'écoute des programmes de RCN.